Aujourd'hui, c'est un sur les docks né de la curiosité d'Olivier Steiner. Le soir du jeudi 29 octobre 2015, plus de 80 roquettes sont lancées contre le camp Liberty près de Bagdad, où résident des résistants iraniens, membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Le bilan de l'attaque est de 23 victimes blessées à mort. Le lendemain, Olivier Steiner est contacté sur Facebook par un jeune homme de 26 ans, étudiant et membre du CNRI. Ses parents et plusieurs membres de sa famille se trouvent au camp Liberty. Ils parlent de l'attaque et demandent de relayer l'information. À ce moment-là, Olivier Steiner ne sait quasiment rien du camp Liberty, ni de celui qui l'a précédé, le camp Ashraf, ni du CNRI.
Alors le CNRI, c'est le Centre National de la Résistance Iranienne qui est basé à Auvers-sur-Oise.
Oui Hervé, c'est là que sont enregistrés les femmes et hommes qui, autour de Madame Marianne Radjavi, incarnent en France quelques-unes des voix de la résistance iranienne.
Mon message, en fait, il sera simple.
Françoise Héritier.
Il est légitime que les femmes aient un statut égal à celui des hommes. Mais on ne peut pas y parvenir sans lutter, sans combattre, sans y mettre du sien. C'est pour cela que l'éducation est extrêmement importante. Mais également, j'allais dire la prise de pouvoir, toutes les fois où la chose est possible. Et c'est en ce sens que personnellement, j'ai été séduite enfin, par le travail mené par Madame Radjavi, par la qualité de son combat et de la sincérité de son engagement pour la laïcité, la vraie, c'est-à-dire la séparation des églises et de l'État, mais également pour son engagement pour les femmes. Et là où elle a innové, où il me semble que c'est là le point essentiel, c'est qu'elle a choisi de donner, dans l'exercice du pouvoir, de donner les responsabilités aux femmes alors qu'elles étaient traditionnellement dévolues aux hommes, les femmes étant de simples assistantes ou secrétaires, etc. Elle a décidé de renverser la vapeur.
Voix de la résistance iranienne. Un documentaire d'Olivier Steiner et Assia Rali.
Alors, je m'appelle Marie-Laurette Guillou. Je vis ici depuis 35 ans. Je suis née à Auvers-sur-Oise. Et donc, on se situe à 200 mètres du Conseil national de la résistance iranienne. Lorsque nous allons rendre visite à nos frères et à nos sœurs, là, à la rue des Gores, maintenant, on dit nos frères, nos sœurs. Hein. On ne dit plus nos amis iraniens, on les connaît tellement tous depuis longtemps. C'est vrai que ce sont nos frères hein, et sœurs. Je soutiens Madame Mariam Radjavi. Je l'ai rencontrée lorsqu'il y a eu une arrestation assez honteuse. Je l'ai vraiment aidée parce que j'avais vraiment vu des injustices des sœurs qui avaient été battues hein, par la police française. Donc je leur ai ouvert ma porte. Et puis, à la suite de cela, Mariam a souhaité me rencontrer. C'est quelque chose qui a été très choquant parce que lorsque vous ouvrez vos fenêtres, et que vous vous trouvez face à 1200 policiers, je dis bien 1200 policiers, alors qu'ici à Auvers, nous sommes que 6500 habitants, et que l'on vous interdit d'aller porter secours à vos voisins, c'est très choquant et on n'en sort pas indemne, moralement. De les avoir rencontrés, pour moi, ça a déjà été une grande chance. Ça a quand même changé un petit peu le sens de ma vie, si vous voulez, où j'étais un peu tranquille, un peu égoïste, un peu, si vous voulez, c'est vrai, on est bien, on voyage, la vie est belle, etc. Mais là, prendre conscience des mollahs, des pendaisons, des femmes battues, des femmes lapidées, ça n'a fait que renforcer ma volonté de vouloir les aider, hein, parce que quand on se rend compte de ça, c'est un engagement. Hein, parce que moi, j'ignorais tout. Je suis contente et je continuerai mon bout de chemin avec eux jusqu'au bout. Hein.
Le 17 juin 2003, le service français de sécurité, DST, lance une opération contre le siège de la résistance iranienne à Auvers-sur-Oise. Une enquête a lieu et le 11 mai 2011, le juge Trévidic prononce le non-lieu sur les volets terrorisme et financier. Le dossier est définitivement clos le 16 septembre 2014.
Ça n'a pas été facile pour moi de rencontrer le Conseil national de la résistance iranienne.
Rama Yad.
Parce que la politique du Quai d'Orsay était de créer un cordon entre eux et nous. Ils m'ont dit, quand je les ai rencontrés, après donc être sortis du gouvernement, qu'ils avaient plusieurs fois tenté d'entrer en relation avec le gouvernement français pour évidemment le sensibiliser à la situation. Et que le Quai d'Orsay était dans une position, toujours d'ailleurs aujourd'hui, de refus, de discussion. Et puis il y avait un élément en plus, la résistance iranienne était considérée, était dans le listing de l'Union européenne et de la France, considérée comme terroriste. Et puis il y avait une enquête aussi, qui était ouverte contre eux par la justice française après le raid, on peut appeler ça comme ça, qui s'est passé au petit matin à Auvers-sur-Oise. Je crois que c'était sous Villepin. Tout ça faisait que quand on est membre du gouvernement français, on ne peut pas les voir. Il y avait une volonté de ménager l'Iran. Et depuis, l'enquête a été... il ne s'est rien passé. Cette enquête a... Voilà, la justice française a dit « Mais non, ce n'est pas des terroristes. » C'est d'ailleurs contradictoire. On ne peut pas dire « C'est un mouvement de terroristes » et les laisser comme ça sur le territoire national vivre comme ils veulent, quoi. Donc, ou sont terroristes, dans ce cas-là, on les met en prison, on applique la loi... Ou ça n'en est pas, et dans ce cas-là, on ne commet pas de raid, on ne fait pas ces choses-là. C'est absolument, c'est encore une des contradictions qui cache en réalité une volonté simplement de ménager l'État iranien, c'est tout. Et puis voilà, moi, libéré de mes obligations gouvernementales, étant libre de faire ce que je souhaitais, je suis allé à la rencontre. Mais alors, il faut savoir qu'avant de le faire, j'ai quand même interrogé le Quai d'Orsay, pour savoir si c'était quand, c'était en 2011. Pour connaître quelle était la position officielle du Quai d'Orsay encore à ce moment-là. Et ils ont confirmé que non, toujours pas de rencontre autorisée, toujours grande méfiance, etc. Bon, je suis quand même allée. Hein. J'ai vu une communauté soudée, portée. Il faut y participer à ces manifestations. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'ils n'ont pas le choix. Il faut maintenir la communauté soudée. Donc il faut des rites. Il faut une figure, celle de Mme Rajavi. Les rites, c'est des rites aussi par rapport aux morts, à ceux qui tombent. C'est aussi la transmission par rapport à la jeune génération. Ils ont beaucoup de courage, beaucoup de force. Et il faut vraiment beaucoup de détermination pour que pendant des décennies, comme ça, ils portent le combat.
Je suis né à Téhéran.
Behzad Naziri.
Nous étions d'une famille avec un père francophile et francophone qui a fait des études à Nancy. Donc c'était pour lui important que ses enfants connaissent la France. Bref, j'ai fait des études de géologie à Bordeaux et cela a coïncidé avec la révolution anti-monarchiste. J'étais tout le temps intrigué par tout ce qui se passait en Iran, dans mon pays, la révolution contre le Shah, avec une sœur qui, elle, donc elle suivait aussi des études universitaires
en Iran. Aussi,
en Iran, oui, pour la donc école supérieure de radio-télévision et de cinématographie. Et puis elle m'envoyait les informations de l'Iran. On avait 18-19 ans, donc on était vraiment la jeunesse iranienne.
Le premier mouvement contre la monarchie, le Shah, c'est quelle année ?
Donc c'est 1977-78. Bien sûr, il y avait des mouvements qui luttaient contre le régime du Shah bien avant, comme par exemple l'Organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran était fondée en 1965 par des intellectuels, des universitaires, qui pensait donc qu'il fallait établir une démocratie pluraliste en Iran. Disons que le mouvement, puisque l'essentiel des leaders démocrates étaient en prison du Shah, le mouvement était en quelque sorte récupéré, accaparé par les mollahs qui avaient le réseau des mosquées
et Khomeini en tête. Et Khomeini était venu à Neuf-le-Château, où moi, étudiant, donc je me rendais à Neuf-le-Château pour l'écouter, pour voir qu'est-ce qu'il avait à nous raconter, à nous jeunes Iraniens. C'est vrai que dans un premier temps, et pas seulement les Iraniens, je vois qu'il y a même des intellectuels, des philosophes et des journalistes qui étaient fascinés ici par le discours de Khomeini.
Un des charmes de l'Iran, et un des inconvénients de l'Iran, c'est que c'est un pays remarquablement intelligent.
François Colcombe.
Y compris les pires en Iran sont remarquablement intelligents. Quand vous pensez qu'un type comme Khomeini avait déjà réussi quand même à séduire Giscard, d'une part, et Michel Foucault. Ma génération, ce qu'écrivait Michel Foucault était parole d'évangile.
Ça peut durer.
Sauf que, comme vous le savez très bien, ce qu'on écrit n'est pas lu au moment où on l'écrit, c'est lu après, ça reste, ça ressort. Et on voit très bien, par exemple, en Italie, la pensée de Michel Foucault sur l'Iran a perduré très longtemps.
J'avais arrêté mes études, c'était la géologie ça s'acquiert sur le terrain, donc j'étais rentré au pays. Et Khomeini avait donné l'ordre de fermer les universités. Donc pendant 3 ans, les universités étaient fermées, c'était sa révolution culturelle à sa manière. Il disait parce que ces mouvements, disons démocrates, etc., ils faisaient des nids dans les universités pour attirer la jeunesse. Bref, donc moi je me suis trouvé dans une situation où je ne pouvais plus avoir des études universitaires et j'étais, il se trouve, embauché par l'AFP de Téhéran. Donc j'étais présent à ces grandes manifestations de foule qui réclamaient tout simplement la démocratie, ce qui était les promesses, ce qui était les objectifs de la révolution contre le régime du Shah. On s'est trouvé donc le 20 juin 81 à cette grande manifestation, disons à peu près 500 000 de Téhéranais, 500 000, le chiffre s'est avancé même par des ténors du régime actuellement. C'était les Mojahedines du peuple d'Iran qui avaient appelé l'ensemble de leurs sympathisants de se rassembler à travers tout le pays pour protester contre l'instauration d'une dictature religieuse. Ça, c'était une manifestation pacifique qui était couverte par la presse internationale. Il y avait des journalistes là-bas. Et c'est là que Khomeini a donné l'ordre de tirer sur les manifestants pacifiques. C'est l'information que j'ai traduite pour mes collègues français qui étaient à mes côtés, les pastarans. Et c'était diffusé à la radio de l'État, que voilà, vous tirez, vous avez droit à tirer. Donc il y a eu des morts. Dès le lendemain, des morts, des blessés, et surtout une vague d'exécution qui a commencé dès le lendemain du 20 juin 81, c'est-à-dire dans la presse, vous aviez des listes de 100, 200, 300, 400 personnes, mais c'était des listes de personnes exécutées. Beaucoup de parents trouvaient les noms de leurs êtres chéris sur ces listes, sans être avisés. Dans mon cas, je reviens à mon parcours personnel, ma sœur qui étudiait, donc, elle a été embauchée par la télévision iranienne. Et une fois cette manifestation de 20 juin 81, tous les fonctionnaires, les travailleurs, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient une sympathie pour les Mojahedines du peuple, ils devaient passer en clandestinité. C'est-à-dire tous ces 500 000 dans la rue, du coup, du jour au lendemain, ils ont dû aller donc se cacher quelque part. Ils ne pouvaient plus réapparaître dans leur lieu de travail, en public, etc.
C'était la terreur.
C'était la terreur. Et quelques mois après, ma sœur a été arrêtée en février 82. Donc février, mars, avril, mai. En mai, ma sœur, Gitti, est exécutée à l'âge de 24 ans. Elle était peintre, elle était artiste, elle était musicienne. Elle jouait très bien le guitare. Ça, c'est ma sœur Kitty. On était très proches. Ça, c'est la petite enfance. Là. Et oui, et ça, c'est la tombe de Kitty qu'un membre des réseaux de la résistance a photographiée et qui m'a envoyé dans un cimetière au sud de Téhéran.
Thank you. en printemps 1979. Il y a une manifestation contre la voile obligatoire. À cette époque-là, j'étais une étudiante.
Et là, je
suis partie de la mouvement étudiante contre le régime des mollahs. Et dans cette manifestation, parce qu'à cette époque-là, j'ai porté la voile. Mais je suis allée là-bas pour participer dans cette manifestation pour défendre le droit des masseurs et toutes les femmes iraniennes qui ne voulaient pas porter les foulards et la chador. Mais il y a beaucoup de femmes aussi, des femmes âgées. Par exemple, comme ma mère et d'autres femmes qui portaient la chador traditionnelle, mais ils ont crié contre cette loi, qu'ils ont crié qui
Nous n'avons pas fait
la révolution pour que Khomeini vienne et oblige notre fille porter les voiles et les chadors. Et c'était très, très intéressant dans cette manifestation parce que c'est tout normal pour les femmes qui ne portaient les voiles de manifester contre cette loi. Mais pour les femmes âgées qui portaient la voile et les chadors et d'autres choses, mais ils ont crié contre cette loi, contre les Khomeini.
Donc vous étiez sur place à cette époque lors de cette manifestation.
Oui.
Et ça s'est passé comment? Le régime a réagi comment?
À cette époque-là?
Le jour même.
Oui. Le régime a envoyé les agents en civil pour attaquer contre les manifestations. Les femmes sympathisantes de la Mujahideen du peuple à cette époque-là qui fait les chaînes pour protéger les femmes iraniennes qui ne portaient pas le foulard et criaient contre ces lois. Nous fait le chaîne pour protéger cette femme pour que les agents en civil ne pouvaient pas attaquer contre cette femme. Je suis quelqu'un qui choisit les foulards après la révolution. Quand j'ai commencé l'activité contre le régime des mollahs, j'ai choisi porter le foulard. Pourquoi? Parce que c'est un drapeau pour moi contre un régime misogyne, régime extrémiste islamiste. Parce que pour confronter l'antéchrist islamiste, il faut avoir une chose très forte. Parce que quand je ne porte foulard, le régime dit « Tu n'es pas musulman et tu ne peux pas parler sur les questions de l'islam. » Mais je dis que non, je suis une femme musulmane. Et vous, quelqu'un qui tu n'es pas musulman, tu utilises l'islam pour votre intérêt. Pour votre intérêt. Vous êtes un régime dictateur religieux. Vous êtes centre d'exportation de terrorisme dans le monde. Khomeini, ce n'est pas un musulman, à mon avis.
La dictature religieuse est fondée sur la misogynie.
Mariam Rajavi.
Le régime iranien a une idéologie machiste et inhumaine. Dans leur loi, la femme est la moitié de l'homme. Une des premières mesures du régime des mollahs, c'était le voile obligatoire. Je suis fortement contre, dans mon pays et dans le monde. Chaque femme doit être libre de choisir ses vêtements. La liberté de vêtements, comme toutes les libertés, sont défendues par le Conseil national de la résistance iranienne. Vous savez que Hassan Rouhani est un des premiers responsables qui a imposé le voile obligatoire. Aujourd'hui, il est président des mollahs, avec un masque de modération. en 3 ans sous sa présidence, 2300 personnes ont été exécutées, près de 70 femmes. Il n'y a pas de différence entre la vision de Daesh et la vision du régime des Mollahs. Aujourd'hui, le régime des Mollahs et ses milices brutales interviennent en Syrie, en Irak et dans d'autres pays au Moyen-Orient. Et c'est aussi ce régime qui a préparé le terrain pour la création et le développement de Daesh. Comme vous pouvez voir, tous ces crimes sont faits sous le couvert de l'islam. Le Coran souligne que tout le monde est égal, femme ou homme. Il n'y a pas de différence. Alors que les Mollahs ont inscrit la misogynie dans leur loi. Mais les femmes iraniennes ont toujours résisté.
Ma sœur était une militante qui s'opposait à tout cela. C'était une femme musulmane. Elle portait une foulard. Quand elle est devenue sympathisante des Moudjahidines du peuple d'Iran, elle n'a jamais eu une action armée. C'était pour ça que les gens étaient exécutés. Les gens étaient exécutés ne serait-ce pour avoir distribué une tracte, avoir vendu un journal ou juste avoir participé à un meeting.
En vous écoutant, c'est comme si le principal danger à l'époque, donc, pour le régime, c'était les femmes.
C'était les femmes parce que les femmes, d'abord, elles étaient très mobilisées pour le processus du renversement du Shah. Et deuxièmement, les femmes, à partir du moment où elles ont constaté cette misogynie qui fait, disons, la caractéristique principale du régime de Khomeini. La preuve, c'est que moi et Guiti, tous les deux journalistes, nous avons été dans les prisons de Khomeini. Parce que moi, donc 40 jours après l'exécution de ma sœur, j'ai été filé par les pastarans, par les gardiens de la Révolution. J'ai été arrêté pour ma part parce que j'étais aussi journaliste, donc j'étais un peu sous la loupe. Donc moi, j'ai été condamné à 8 ans de prison. Donc j'ai fait les prisons de Khomeini. Mais pour en revenir à votre question, tous les deux, en tant que journalistes, nous avons été dans les prisons de Khomeini. Mais moi, 35 ans après, je suis devant vous, je vous parle, et ma sœur n'y est plus. Elle était une femme. Elle a été torturée d'une manière plus atroce qu'un homme dans les prisons de Khomeini.
De la Commission des femmes du Conseil national de la résistance iranienne.
Parnian Saramad.
J'ai choisi d'être parmi de la résistance iranienne.
Vous avez quel âge?
Moi, j'ai presque 72 ans. Et puis, moi, j'ai grandi dans une famille en Iran, qui sont une famille pas traditionnelle. Et puis, depuis que j'étais petite, je suis entrée dans la politique par ma famille. Quand j'ai eu 6 ans, je me souviens très bien que je suis contre le régime du Shah, parce que toute ma famille était comme ça. Et puis, pour cette raison, bon, j'étais sensible vis-à-vis de ce qui s'est passé autour de moi. La pauvreté, et puis les choses comme ça. Et après, au lycée, et après à l'université, je suis entrée dans l'université de Téhéran. J'ai passé mes études en biologie. J'ai connu là-bas, par les brochures, par les tracts, mais c'est bien sûr, c'était en secret, des Moudjahidines du peuple d'Iran. Bon, j'étais comme tous les jeunes, j'étais très très curieuse pour voir les autres mouvements. Il y avait plusieurs mouvements en Iran. Même j'ai passé chez dans les conférences des Mollahs, etc., à l'époque du Shah. Mais c'était pas bien intéressant pour moi. C'était quelque chose que j'aimerais pas. Et puis après, au moment à l'université, j'ai connu des Moudjahidines. Et puis après, bon, juste après chute du Shah, après la révolution, bon, je suis passée en France pour passer mes études à Clermont-Ferrand. Bon, j'étais toujours dans le mouvement, je suis au courant des choses politiques qui est passées juste après la révolution en Iran. Et puis, je suis venue à Paris. J'ai eu un enfant à cette époque, Rouzbé.
Et cet enfant, Rouzbé,
cet enfant, moi j'ai deux fils, Rouzbé et Moussa. Rouzbé, maintenant, il a 36 ans et Moussa, 33 ans. Ils ont été dans le camp Ashraf. Moi, j'étais pendant 3 ans dans le camp Ashraf comme professeur au lycée. Et puis après, mes enfants, ils ont été là-bas avec moi, comme tout le monde. Mais juste à cause de la guerre entre l'Irak et la Koweït, on a envoyé tout de suite les enfants, tous les enfants. Il y avait 1000 enfants là-bas, à l'extérieur. Mes enfants, ils ont été dans une famille que j'ai eue en Allemagne.
Oui, après cette terreur qui s'est installée en Iran, donc en début des années 80... Donc, une partie de la résistance, donc, disons, la politique s'est installée donc, à Auvers-sur-Oise, mais il s'agissait donc de milliers d'Iraniens qui ne pouvaient plus donc rester dans une situation où, dans n'importe quelle parcelle de terre qu'ils voulaient être, soit ils étaient persécutés, leurs parents arrêtés, mis en prison, exécutés. Donc, ces milliers d'Iraniens ont émigré, en quelque sorte, ils ont choisi de s'installer dans la zone frontalière en Irak, le pays le plus proche. Et c'est là qu'ils ont constitué un camp qui s'appelait Ashraf, dans un désert aride irakien. Ils l'ont construit brique sur brique et ils ont constitué là une sorte d'oasis au sein de ce désert irakien. Donc Ashraf s'est constitué en une sorte de cité, de camp, jusqu'à 2003, jusqu'à l'invasion américaine de...
Il s'agissait de combien de personnes ?
De l'Irak. Il s'agissait, à l'époque, de quelque sorte, de l'ordre de 4000 à peu près, oui. Avec une infrastructure d'une ville, avec un hôpital, une bibliothèque, un complexe sportif, un parc, un zoo, disons, toutes sortes de... une université, une sorte de pôle universitaire pour enseigner, parce que c'était des réfugiés. Pour les uns, c'était des étudiants. Pour les autres, c'était des lycéens. Donc, ils avaient tous laissé dans leur pays. Et Ashraf avait constitué comme une sorte de pôle d'attraction. C'était des Iraniens qui inspiraient les Iraniens de l'intérieur, qui les encourageaient à ne pas céder, parce que c'était des Iraniens résistants qui n'avaient pas cédé devant la dictature. Donc leur message vers l'intérieur était toujours à ces femmes, à cette jeunesse, ben, ne cédez pas, ne perdez pas le moral, continuez de vous battre contre ces dictatures religieuses. Et puis, mes enfants, quand ils ont grandi, ils vont décider d'aller là-bas, à Ashraf. Mon aîné, qui s'appelle Rouzbé, il est chanteur et compositeur. Toujours, il a dit que je vais chanter, je vais partir là-bas, dans la résistance, pour chanter pour la jeunesse de l'Iran. Et il est beaucoup suivi par la jeunesse à l'intérieur de l'Iran aussi. Je suis fière de ça, parce que ça donne beaucoup de... comment ça s'appelle, courage aux jeunes iraniens, que voilà, la vie c'est pas ça. La vie c'est pas le régime des mollahs qui a tué autant de monde, qui toujours continue aussi de tuer. Hier, encore une personne qui a été pendue publiquement. C'est pas... l'Iran, c'est pas ça. Parce que, bon, il faut montrer des jeunes qu'on peut lutter contre ce régime. Et ça, c'est très important comme un exemple pour la jeunesse en Iran. Parce que l'Iran, c'est un pays jeune, qu'ils en étaient malheureusement maintenant par le régime iranien, par le drogue. Il y a beaucoup de toxicomanie en Iran, beaucoup de pauvreté.
beaucoup de les gens qui sont suicidés à cause de la répression. Il faut donner espoir qu'on peut.
Je m'appelle Elham Zanjani. J'ai 36 ans. Je suis née au Canada. Je suis née à Montréal, à Québec, et j'ai grandi à Toronto. Ma famille a quitté l'Iran 2 ans avant la révolution. J'ai grandi dans une famille qui était sympathisante de l'opposition, de la résistance iranienne. Et j'ai grandi comme toute jeune au Canada. Je jouais des sports, j'avais des amis, j'allais à l'école, je suis allée à l'université. Et lorsque j'ai grandi, je me demandais toujours que pourquoi l'Iran? C'est comme ça. Pourquoi les femmes, elles n'ont pas le droit d'être libres comme moi? J'ai grandi dans une société démocratique et donc vers la 2e année de l'université, j'ai décidé d'aller voir Ashraf et je suis allée là-bas. C'était très très bon. C'était une vie très nouveau parce que il y avait l'égalité entre les hommes et les femmes. Les hommes, ils travaillaient à côté des femmes pour qu'on puisse arriver à nos buts et pour avoir la liberté et la démocratie en Iran. Tout était très bien jusqu'à 2009.
Donc à partir du moment où les Américains ont retiré leurs troupes de l'Irak, à partir de ce moment-là, Ashraf donc, a été exposé dans la période 2009-2012 à des massacres menés non seulement directement par les agents de service de régime iranien, des pastarans, mais aussi par les forces, les troupes irakiennes qui étaient sous les ordres de l'ancien premier ministre irakien qui s'appelait Nouri al-Maliki. C'était un homme de main des mollahs, c'est-à-dire un gouvernement totalement sous les ordres du régime de Téhéran. Ce qui fait que dans cette période, Ashraf a connu plusieurs attaques, dont les plus nommées, c'était juillet 2009, et avril, 8 avril 2011.
Bon, en avril 2011, c'était peut-être 5h30, 6h le matin, on a entendu des bruits, puis je suis sortie pour voir qu'est-ce qui se passe, et j'ai vu voilà, les Irakiens avec leurs chars, et ils commençaient à fusiller à des gens, et puis je suis allée près d'un des soldats, je lui ai dit « Qu'est-ce que vous voulez de nous? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et il m'a dit « Écoute, j'ai l'ordre, un papier signé du Premier ministre. Il nous a dit qu'il faut venir ici et éliminer tous les membres de la résistance ici à Ashraf. » Et peut-être 5 minutes après, un des soldats m'a ciblé avec une grenade. J'ai les photos juste pour que je vous les montre, c'est-à-dire c'était une ville très très moderne. Et puis soudainement, les Irakiens, ils sont venus le matin pour détruire tout ce qu'on avait. On avait 2 choix, très simples. On pouvait fuir, baisser nos mains, et puis on avait le choix de résister, de dire non. Et donc, le soldat, il m'a jeté la grenade qui a détruit ma main gauche.
C'est votre main, là, sur les photos ?
Oui, oui. Ça, c'est ma main gauche, et puis j'ai la main droite aussi, mes 2 jambes. Et puis avant, j'ai perdu 5 de mes dents. Et donc, vous savez, c'était très, très difficile. Ils étaient comme des monstres. Ils ont attaqué beaucoup de mes amis. Par exemple, une de mes amies, elle filmait l'attaque. C'est grâce à elle que nos amis ici, ils ont compris qu'il y avait l'attaque qui a commencé là-bas. Et elle a mis les films sur YouTube. Et puis, soudainement, ma mère, au Canada, elle voit que je suis blessée comme ça. Ça, c'est à l'hôpital. Ça, c'est Ossier. Elle avait 29 ans. Elle filmait l'attaque et ils lui ont tiré dans la jambe. Et puis, elle est morte parce qu'on n'avait pas les médicaments pour la soigner. Et C'était juste après ça que les Irakiens nous ont augmenté le blocus. Ils ne nous ont pas donné le sang, ils ne nous ont pas donné les médicaments. Donc c'était très très difficile. Mais vous savez, on a beaucoup de gens qui sont très nobles dans ce monde. Tous nos amis, nos frères et sœurs ici, dans tout autour du monde, qui ont mobilisé tous les parlementaires, tous nos amis autour du monde. Et puis, ils ont obligé au régime irakien d'arrêter l'attaque. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'était l'armée qui était là pour détruire tout le monde, d'éliminer tout le monde.
Il y a des négociations après le deuxième massacre d'avril 2011, des négociations qui sont commencées entre l'ONU, le gouvernement irakien, les Mojahedines du peuple d'Iran qui étaient installés à Ashraf dès le départ, et le gouvernement américain qui avait aussi disons une responsabilité juridique de protéger ces réfugiés. Et donc ces négociations ont abouti à partir de 2012 à un transfert des résidents d'Ashraf à un camp qui s'appelle camp Liberty. Donc c'est un camp plus réduit, c'est une sorte de baraquement, de bungalow installé. C'est, disons, un camp de moins d'un demi-kilomètre carré. Ashraf, c'était 36 kilomètres carrés. Et dans une situation terrible sur le plan humanitaire, sur le plan de la logistique, du quotidien, de la gestion matérielle. En plus, ils étaient encore soumis au harcèlement quotidien des forces de renseignement du gouvernement irakien qui recevaient des ordres de Téhéran.
Le régime de Rouhani n'est pas différent des précédents. Les mots diplomatiques employés sur les scènes internationales, des meetings et des sommets ne sont rien à côté du nombre d'exécutions, de condamnations à mort, aussi bien d'opposants, de femmes et de mineurs qui ont lieu actuellement en Iran sur les places publiques pour donner des exemples et faire peur. L'économie est confisquée par les passes d'Aran qui concentrent tout. Donc, je ne sais pas, même sur l'ouverture économique, où est l'ouverture parce qu'il y a une prédation économique sur les marchés iraniens. Et tout le monde fait semblant de rien voir. Et les médias français diffusent maintenant, à des heures de grande écoute, des reportages sur l'Iran nouveau, le tourisme, l'Iran antique, les femmes tellement libérées. Des choses comme ça, c'est juste ahurissant. C'est un exercice schizophrénique qui fait peur. Quand on veut se raconter une histoire, manifestement, on se la raconte. C'est un équilibre fragile, le réel politique et droits de l'homme, j'en suis consciente. Moi-même, je portais la contradiction dans la mission qui m'avait été confiée entre 2007 et 2009, puisque j'étais à la fois secrétaire d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme. Donc, je signais des contrats commerciaux. J'allais dans des pays où les droits de l'homme n'étaient pas forcément respectés. Et je participais à des délégations présidentielles dans lesquelles nous rencontrions des types qui avaient été élus de manière antidémocratique. Et j'ai porté cette contradiction-là, mais je pense qu'on peut la dépasser. Parce que, en fait, c'est pas les intérêts économiques contre les valeurs. Parce que les valeurs sont notre intérêt, en fait, supérieur. Et par expérience, j'ai vu que lorsqu'on a renoncé à évoquer, ne serait-ce qu'évoquer la question des droits de l'homme avec tel ou tel dictateur, au motif qu'on devait signer des contrats pour créer des emplois en France, argument ultime, eh bien, on signait pas les contrats. On signait pas les contrats parce que la résistance s'organisait ailleurs, c'est-à-dire dans la presse, chez les ONG, dans les opinions publiques. Et comme les dictatures ne font pas la différence entre la presse et le gouvernement, l'opinion et le gouvernement, pensant que nécessairement un gouvernement doit maîtriser sa presse, doit maîtriser ses ONG, eh bien, ils nous ont fait payer ça. C'était le cas du colonel Kadhafi en Libye. Il n'a pas signé les contrats. Pas parce que Nicolas Sarkozy lui a parlé des droits de l'homme, il ne l'avait pas fait. Mais parce que dans l'opinion, il y avait de la résistance. Donc ça ne marche pas, ça. Le renoncement, parce que ce sont des pays qui ne comprennent que le rapport de force. La Russie, c'est pareil. Qui ne comprennent que le rapport de force et qui fondent tout sur un orgueil d'État. Ça ne marche que si nous avons aussi le même comportement. Et je pense qu'il faut garder son esprit critique par rapport à l'Iran et savoir qu'avec ce type d'État, mettre son drapeau des droits de l'homme dans la poche, enfin, mon expérience en tout cas de cet État aux droits de l'homme, c'est que ça ne sert à rien et c'est même dangereux et ça se retourne contre nous. Et vraiment, je pense que cette espèce de frénésie mercantile, tout ça avec un contexte d'accord nucléaire avec l'Amérique est le signe d'une reddition, pas seulement morale, mais aussi diplomatique majeure. Voilà. Et donc cet axe-là, Iran, Syrie, Russie, c'est l'axe finalement de ceux qui ont réussi par le rapport de force à inverser la tendance. Et puis derrière, sans doute, le lobby économique pour que l'ouverture des marchés iraniens soit profitable aux Français, aux entreprises françaises, a aussi joué. Et parce qu'on n'a pas non plus de politique étrangère très cohérente dans cette région où on a foutu le feu, de la Libye à l'invasion en Irak. On a perturbé un équilibre géopolitique qui était fragile, qui datait des années 20, des accords Sykes-Picot, avec des frontières quelquefois souvent artificielles. On a joué au pompier pyromane.
Je m'appelle Shagoyer Azimi, c'est-à-dire Coquelicot Azimi. Je suis née à Téhéran. J'ai 23 ans. Donc je suis née à Téhéran, mais actuellement je suis une militante des droits humains.
Vous avez quitté l'Iran à quel âge ?
Entre 16 et 17.
Et vous êtes arrivée en France ?
Ça fait 2 ou 3 semaines, mais en fait j'habite en Finlande.
Quelle est la situation en Iran aujourd'hui, Internet, des réseaux sociaux, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est interdit ?
Donc Internet,
a beaucoup de
restrictions, surtout les réseaux sociaux les plus connus comme Facebook ou Twitter. Mais en fait, la jeunesse ne se plie jamais à ces restrictions. En fait, ils trouvent toujours un moyen de pouvoir les utiliser et de créer des contacts avec l'extérieur, surtout sur Telegram, qui est un réseau social que le régime ne peut pas encore censurer. Telegram, c'est un réseau social qui a été, je crois, fait par un Russe et qui a refusé tous les appareils de censure du régime iranien. C'est pour ça que tout le monde se rue dessus et tout le monde travaille avec ça.
En
fait, ce qui a le plus de conséquences et d'influence en Iran pour aider les prisonniers politiques ou contrecarrer cette répression, c'est justement toutes les activités sur les réseaux sociaux. Mes parents, mon père et ma mère, dans les années 1980, qui étaient sympathisants des Moudjahidines du peuple, ont vu des scènes à cette époque autour d'eux de répression, de tuerie de leurs amis, des autres partisans de la résistance autour d'eux. Et à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux pour pouvoir en parler. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de documents. Et s'il y avait eu ces réseaux sociaux, maintenant la situation serait bien différente. Surtout que ma mère, dans les années 80, a été en prison sous la torture pendant 5 ans, dans un endroit terrible pour les femmes qui s'appelait le quartier résidentiel. Toutes celles qui en sont sorties, si elles en sont sorties, sont restées folles, démentes.
Nous avons 2 ans de nous pour nous. آنها را مبهوت خواهد کرد.
مقاومت یک تلویزیون داره به اسم سیمای آزادی.
Une chaîne d'opposition qui est proche du CNR qui s'appelle سیمای آزادی, le visage de la liberté. On était tout un groupe d'ados, on était sympathisants de la résistance. On regardait attentivement toute la jeunesse qui passait dans cette télévision.
و مثلا بالاترین انگیزمون این بود که شعرهایی که اینا میخونن و بنویسیم توی دفتر و
دفتر. Il y avait un groupe de musique et nous ce qu'on faisait c'est qu'on écoutait toutes ces chansons et puis on les recopiait les paroles et puis on sortait pour chanter ces chansons pour montrer qu'on n'avait pas peur du régime, qu'on n'en voulait pas. Aussi ce que je dois dire c'est que tous les gens qui sont en Iran, surtout les femmes, sans différence d'âge, les femmes savent que, et même les jeunes en Iran, il n'y a pas d'avenir pour eux. Moi je savais que même si j'étais la première dans mes études, soit je devais partir à l'étranger, je ne pouvais pas étudier beaucoup de matières puisqu'elles sont interdites aux femmes.
Et
moi, dans cette télévision, je voyais quelque chose d'autre. Par exemple, les femmes présentatrices à la télévision, combien elles étaient sérieuses, combien elles étaient sûres d'elles, ou bien les femmes dans divers domaines, surtout dans ce qui est interdit pour les femmes en Iran, elles pouvaient le faire. Dans la résistance à Ashraf, c'était possible. Cette chaîne est interdite en Iran. Ils arrêtent les gens qui la regardent. Il y a souvent des descentes de police dans les familles. En fait, même on ne devait pas prononcer le nom. C'était interdit. Et même c'était tout à fait clandestin. Tous les sympathisants des Moudjahidines, surtout les jeunes, c'était un devoir vital que de regarder cette chaîne.
L'Iran est une absence dans l'imaginaire collectif. Le régime iranien prive le monde de l'Iran. Quand vous dites Iran, vous voyez quoi comme image? Vous ne voyez pas d'image. Vous ne voyez pas un paysage. L'Égypte, bon, bah, vous voyez les pyramides, le Maroc, vous voyez des tas de choses. Parce que touristique, parce qu'on y va, parce qu'on voit des images à la télévision, parce que voilà. Mais l'Iran, c'est quoi l'Iran dans votre imaginaire? On ne sait pas à quoi ça ressemble. C'est à ça qu'on voit qu'un pays est fermé. L'Iran, c'est un grand pays. Il n'y a pas beaucoup de pays dont on peut dire qu'il s'agit d'une civilisation. À lui seul.
Les femmes sont la réponse finale aux antéchrists. Les mollahs vont être renversés par les femmes parce qu'elles ont beaucoup souffert sous le régime des mollahs. C'est pourquoi nous disons que les femmes sont la force du changement en Iran. Et je voudrais aussi parler d'un acquis de la résistance iranienne. C'est la première fois qu'un mouvement de résistance pratique l'égalité dans tous les domaines, surtout à la direction politique. La présence des jeunes femmes dans le leadership de la résistance iranienne démontre cette volonté. C'est une garantie pour la liberté et la démocratie dans l'Iran de demain.
Justement, ce leadership des femmes, ça nous a permis à hommes de ce mouvement de gagner un trait d'humanité, un trait de plus d'humanité. Ce respect de l'égalité dans la vie quotidienne de ce mouvement. Des femmes et des hommes, les uns à côté des autres, devant un défi, c'est pas une loisir, c'est un vrai défi. Renverser cette dictature religieuse des mollahs à Téhéran, qui est autant chouchouté par l'Occident. Ce que vous voyez ici, beaucoup mieux que moi. Tous ces tapis rouges, tous ces, toutes ces illusions qui, d'un jour ou de l'autre, seront transformées en désillusions. Ce qu'on voit d'ailleurs après le voyage de Rohani à Paris, à peine quelques mois, toute la presse commence à écrire que c'était un peu l'écume des jours et que les choses vont aller un peu dans d'autres sens.
Mariam Radjavi, vous combattez le régime et ses idées, mais vous proposez donc une alternative, un plan pour un Iran démocratique.
Oui.
Si vous permettez, je vais
continuer en persan.
Je vais continuer en persan.
ماده یکش اینه که تنها ملاک در واقع سنجش برای ایران فردا رأی مردم و انتخاب مردم.
Le premier article, c'est que la seule source de légitimité pour un pouvoir dans l'Iran libre de demain, c'est le suffrage universel et le vote du peuple.
همین دلیل ما خواستار یک جمهوری در واقع یک حکومت جمهوری مبتنی بر رأی مردم هستیم.
C'est donc nous sommes pour une république pluraliste basé sur le suffrage universel. Nous soutenons l'abolition de la peine de mort. Donc la résistance iranienne défend la séparation de la religion et de l'État, et notamment l'égalité des droits de tous les citoyens iraniens, quelle que soit leur appartenance religieuse.
ما به برابری کامل زن و مرد اعتقاد داریم همچنان که گفتم و کلیه حقوق
Nous reconnaissons donc l'égalité totale entre les femmes et les hommes dans tous les domaines politiques, sociaux, juridiques, mais particulièrement de la participation égale des femmes dans la direction du pays.
همچنین حق آزادی پوشش، حق طلاق
Également des libertés telles que la liberté du choix des vêtements, la liberté de choix de son travail, de son lieu de travail, la liberté de divorce, c'est-à-dire des libertés qui sont totalement inexistantes dans le régime actuel. Nous voulons donc un système judiciaire moderne, c'est-à-dire basé sur la présomption d'innocence, sur le droit à la défense, sur le droit d'avoir un procès public, l'indépendance totale des juges et des avocats. Toutes les ethnies, toutes les nations qui constituent la nation iranienne doivent jouir des mêmes droits, c'est-à-dire qu'ils doivent être tous égaux devant la loi. Et particulièrement, le Conseil national de la résistance iranienne a adopté un plan sur l'autonomie du Kurdistan iranien en la matière. Et aussi, bien sûr, nous défendons et nous souhaitons un Iran non nucléaire. Vous m'avez dit de résumer ces 10 points, mais vous êtes encore un peu peut-être long.
Voix de la résistance iranienne. Françoise Héritier, Marie-Laurette Guillou, Rama Yad, Behzad Naziri, François Kolkombé, Elae Arjmandi, Mariam Radjavi, Parnian Saramad, Elham Zanjani, Shahrayer Azimi. Merci à Hélène Fapour et Afshin Aladi. Prise de son Étienne Leroy, Jean-Marie Porcher. Mixage Bruno Mourlan, attaché d'émission Christine Bernard, Alison Sinard, coordination Irène Melianenko, un documentaire d'Olivier Steiner et Assia Ralid pour Sur les Docks.